Ce matin, c'est juste un message d'introduction. Vous savez, je crois fermement, frères et sœurs, je crois sincèrement et de tout mon cœur que le christianisme, l'évangile, le christianisme, c'est pas une religion. Les hommes en ont fait une religion, mais l'évangile, c'est pas une religion. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut et la vie de celui qui croit. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et moi, je crois en 2018, je crois dans ce monde de ténèbres, je crois à un christianisme dynamisé. Je crois à un christianisme vivant, pratique, confirmé par les signes, par les miracles. Je crois à un évangile bouillant, un évangile enflammé, un évangile passionné, passionnant, un évangile conquérant. Et si on n'a pas ça, sans l'Esprit de Dieu, sans l'Esprit de Jésus, l'Église de Jésus restera toujours faible et vulnérable. Et moi, je crois à ces dimensions-là. Mais je crois aussi qu'avec la vie de l'Esprit, c'est possible de vivre une vie complètement différente dans ce monde et de faire encore la différence dans notre génération. Sans le Saint-Esprit, sans son souffle, on verra tous ses attributs, tous ses qualificatifs, on verra tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, mais sans sa plénitude, sans son souffle, l'Évangile devient une religion. Et c'est là que l'Évangile devient une religion, quand on perd le souffle, quand on perd la dimension de l'Esprit. C'est là que le christianisme devient une religion. Sans le Saint-Esprit, on ne va nulle part. On tourne en rond. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vivre la vie de Dieu. Sans la dimension de l'Esprit, on ne peut même pas comprendre la parole de Dieu. Sans la vie de l'Esprit, on ne peut même pas faire l'œuvre de Dieu. On peut faire des choses pour Dieu, ouais, mais sans Dieu. Et on a besoin de retrouver toutes ces dimensions. Et je suis convaincu, frères et sœurs, que ce qui va faire la différence, si l'Église de Manosque veut entrer dans ces dimensions, c'est la personne glorieuse et divine du Saint-Esprit. C'est son souffle, c'est son action, c'est son mouvement, c'est sa dynamique. Vivre une vie continuellement remplie du Saint-Esprit. Vivre une vie remplie du Saint-Esprit, pas une expérience passée. Ce sont quelques réflexions d'introduction. J'introduis simplement la thématique de l'année. Je pèse mes mots, je les ai choisis, je suis convaincu, je sais de quoi je parle. Ici, être rempli du Saint-Esprit, c'est un enjeu. Et c'est un enjeu qui est vital. Un enjeu qui est vital pour nos vies. Déjà ma vie personnelle, un enjeu pour mon couple, c'est un enjeu pour ma famille, c'est un enjeu pour mon église, c'est un enjeu pour ma génération, c'est un enjeu pour mon avenir, de pouvoir retrouver cette vie. Et là, vous avez bien compris que je ne vous parle pas d'une expérience. Je ne vous parle pas d'une expérience ponctuelle, passée. Je ne vais pas vous faire lever la main en disant « Quels sont ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit ?» Parce qu'il y en a qui pourraient lever la main. Malheureusement, ça reste, pardon, une expérience ponctuelle, passée. Et moi, ça ne m'intéresse pas de savoir si sur votre poitrine, vous pouvez arborer la médaille du mérite évangélique baptisée dans le Saint-Esprit le 2 octobre 1986. Ça ne m'intéresse pas. Parce que la vie avec Dieu, ce n'est pas des expériences ponctuelles. La vie avec Dieu, c'est une vie. C'est tous les jours, c'est tout le temps, c'est 365 jours par an. Je ne vous demande pas si vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit. À la limite, que vous y soyez ou pas, pour l'instant, ça ne change rien. Je vous demande si vous vivez une dimension de vie immergée, plongée dans la personne et dans l'œuvre du Saint-Esprit. Je ne parle pas d'une expérience passée. Je parle d'une dimension de vie présente et à venir. Alors, je vois, c'est vrai, aujourd'hui c'est un constat, il n'y a rien de méchant, mais on s'aperçoit en regardant le paysage évangélique français, on s'aperçoit qu'il y a malheureusement de moins en moins de gens qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Mais on verra que le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas une finalité en soi, c'est juste un moyen. C'est une porte ouverte dans une autre dimension, vers une autre dimension. De plus en plus de chrétiens ne sont pas ou ne sont plus baptisés dans le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, dans notre paysage évangélique, se contentent d'avoir une expérience. On a une date sur un calendrier, on a une date souvenir d'une expérience, mais ne vivent plus dans cette dimension de la vie de l'Esprit, une dimension permanente dans une Pentecôte qui soit non pas ponctuelle, mais une Pentecôte qui soit renouvelée, qui soit quotidienne. Le feu doit brûler et brûler et brûler et brûler encore et toujours. Et l'expérience de Pentecôte, ce n'est pas une expérience passée. La Pentecôte, c'est réellement une façon de vivre avec Dieu. Ma Pentecôte peut être quotidienne, elle peut être personnelle et elle peut être même progressive. Parce que le Saint-Esprit a encore bien plus à faire maintenant qu'il n'a fait par le passé. Dieu veut faire infiniment plus que ce que tu as connu, que ce que tu as expérimenté de par le passé, mon frère, ma sœur. Alors, oui, peut-être avec le temps, c'est comme ça, il y a différentes raisons, mais le feu s'est éteint. Et vous avez déjà remarqué, une cheminée, lorsque le feu s'éteint, ne reste que des cendres fumantes. Et avec des cendres fumantes, on ne peut plus faire grand-chose, il reste des cendres, il reste des souvenirs. Puis après, on s'étonne. On dit, mais frère, mais où sont les miracles ? Non, il faudrait surtout demander où est le Saint-Esprit. Où sont les prodiges dont nous parlaient nos pères ? Où sont les miracles ? Où sont ces signes ? Qu'est-ce qui s'est-il passé ? Comment a-t-on fait pour en arriver là ? Comment ça se fait qu'on ne voit plus autant de choses qu'avant ? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Soyez remplis de l'Esprit. Le niveau a baissé, 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 baissé. On s'habitue. Puis après, on s'habitue à 50%. Puis il baisse, on s'habitue à 40, on s'habitue à 30, on s'habitue à 20, on s'habitue à 10. Puis un jour on se dit, tiens c'est bizarre quand même, on est un peu sec. Ah ben, le niveau a baissé. Et je crois que ce dont l'Église a besoin, et je ne parle pas que à Manosque, l'Église a réellement besoin tout à nouveau du feu, du vrai, de la personne du Saint-Esprit, de sa plénitude, et d'en être continuellement rempli. On va faire une première lecture ensemble dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 19, verset 1er. Et ce texte m'a vraiment interpellé et m'aiguille aussi dans la façon de vous apporter toute cette série de messages, puisque à la lumière de ce texte, je sens qu'il va falloir commencer par le commencement, commencer ou recommencer. C'est-à-dire qu'on va simplement présenter le Saint-Esprit, on va faire connaissance. Et vous allez comprendre pourquoi je veux vraiment commencer du début. Actes, chapitre 19, verset 1er. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Paul dit alors « Mais de quel baptême avez-vous été baptisés ?» Ils répondirent « Du baptême de Jean, Jean le Baptiste, le précurseur de Jésus. » Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, il leur présente Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés par immersion au nom du Seigneur Jésus. Verset 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue et ils prophétisaient. Amen. Ce qui m'a interpellé à la lecture de ce texte, c'est l'évidence, la logique. Lorsque Paul a rencontré des disciples, il ne leur a pas demandé en quelle date ils avaient été baptisés. Il ne leur a pas demandé quel était le nom de leur pasteur. Il ne leur a pas demandé ce qu'ils faisaient comme métier. Il ne leur a pas demandé est-ce que vous avez des problèmes de couple ou pas en ce moment. Votre femme, elle est gentille avec vous. Ça se passe bien au travail. Vous avez eu vos examens. C'est très bien tout ça, on peut. Mais la question logique, évidente pour l'apôtre Paul, il voit des disciples, c'est une évidence. Il faut qu'ils aient le Saint-Esprit. Comment on vit la vie de Dieu sans l'Esprit de Dieu ? Alors il leur pose cette question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Le nom de ton pasteur et depuis quelle année tu es dans l'église, ça ne m'intéresse pas. Moi je veux savoir à quoi tu en es aujourd'hui avec le Saint-Esprit. Et là la réponse elle est flagrante, elle est même choquante. Alors, d'autant plus choquante que pour Paul, c'est une évidence. Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, mais ça va ensemble, ça fait partie du Pâques, c'est la vie chrétienne normale. Et puisqu'ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit, du coup, ça devient même choquant, ça devient énorme. Pourtant, pardon, c'est la réalité aujourd'hui de beaucoup de chrétiens. Peut-être certains pourraient dire, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Certains n'en ont jamais entendu parler, d'autres si peu, d'autres, pardon, si mal. Et au final, il y a tellement de mauvaises connaissances ou d'absence de connaissances du Saint-Esprit que Paul se dit, là, il y a un problème de fondement. Et vous avez remarqué au verset 3, puisqu'ils disent « on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit », lui, il va revenir tout de suite au fondement du fondement du fondement. Il dit « mais vous avez été baptisé de quel baptême ?» Parce que c'est logique, baptême par immersion, avec tout ce que ça représente dans la symbolique, et baptême du Saint-Esprit, plongé, immergé dans l'eau, l'identification à Christ, l'obéissance, la repentance, la foi, plongé, immergé dans l'eau, et ça va avec, plongé, immergé dans la personne et dans la puissance du Saint-Esprit. Et comme il n'y avait pas la deuxième phase du Pâques, du coup il est revenu à la première et dit « vous, il doit vous manquer un fondement quand même ». Effectivement, ils n'avaient même pas le baptême tel que, voilà, ils l'enseignent ensuite. Parce que pour Paul, c'est évident, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, ça va ensemble. Et je ne suis pas obligé d'attendre 20 ans pour ressentir un frisson, surtout que le Saint-Esprit, ce n'est pas un frisson, et puis dire quelques mots en langue. Ce n'est pas une médaille. Ah, quand je serai assez saint, c'est le Saint-Esprit dans sa grâce qui te sanctifie. Tu vas faire comment sans lui? Ah, quand je serai plus zélé, c'est le Saint-Esprit qui rend bouillant. Tu vas faire comment sans lui? Ah, mais quand je serai... Ah, quand j'aurai 20 ans d'église... Si tu arrives aux 20 ans d'église, et si tu arrives, tu vas y arriver dans quel état? Parce que c'est le Saint-Esprit dans sa grâce qui va te tenir aussi. Comment tu vas faire sans le Saint-Esprit? Donc c'est tellement logique, c'est tellement évident, tu ne vas pas attendre 20 ans pour décrocher ta médaille de Pentecôte. Non, tu vas être naturellement rempli, immergé dans la personne et dans l'œuvre du Saint-Esprit, dans sa personne et dans sa puissance. Je suis malheureux, frères et sœurs, il y a tellement aujourd'hui d'églises de Pentecôte qui, excusez-moi, n'ont plus que l'étiquette de Pentecôte. Vous rentrez à l'intérieur, c'est vide, c'est sec. Soit vous avez des gens complètement éteints, soit vous avez des farfelus qui n'ont rien compris au Saint-Esprit. Je suis triste de ce que le corps pastoral aujourd'hui n'enseigne pas ou n'enseigne plus la vie de l'Esprit. Des fois, vous allez vous dire, pourquoi il dit des gens « Merci Seigneur pour les 100 personnes qui sont ici ». Cette semaine, il y aura entre 250 et 300 personnes chaque semaine qui écouteront ce message. Et il y a des internautes, et il y a des choses qui doivent partir sur le net. Je suis triste, il y a des pasteurs qui n'enseignent pas ou qui n'enseignent plus la vie de l'Esprit. Du coup, ça peut être dit à la décharge des croyants qui disent un jour, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors je sais qu'il y a des pasteurs qui ont eu peur. Ils ont eu peur que ça déborde. Ils ont eu peur que ça ne vienne le bazar dans l'église. Ils ont eu peur que ce soit l'anarchie. Ils ont eu peur de perdre le contrôle. On voulait que les chrétiens soient tous bien rangés pendant le temps de louange, bien alignés sur leurs chaises comme ça. Attends, Joseph, tu peux te mettre un peu plus comme ça, s'il te plaît ? Voilà, une église bien rangée. J'aime bien quand mes chrétiens ils sont bien rangés. Il n'y en a pas un qui bouge. On a peur de perdre le contrôle. Un pasteur qui n'enseigne pas la vie de l'Esprit, c'est qu'il ne connaît pas le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas de gens plus équilibrés que les gens qui sont authentiquement remplis du Saint-Esprit. Vous avez vu un jour peut-être des farfelus, ça vous a fait peur, mais s'il y avait des farfelus, c'est parce qu'ils n'ont rien compris au Saint-Esprit. Et on a eu peur, on s'est dit « Ah, ça va déborder, il y aura du bruit ». En même temps, vous savez, à la Pentecôte, il y a quand même eu un petit peu de bruit. Puisque la multitude est venue, elle est accourue. C'est normal qu'il y ait du bruit, c'est normal. Je ne dis pas que c'est le marché couvert ou que c'est la foire, mais il y a une expression de joie, il y a quelque chose qui coule, c'est normal. Quand vous regardez l'eau, Le Saint-Esprit est souvent symbolisé par l'huile, le vent, le feu, la colombe, on verra tout ça. Il est aussi symbolisé par l'eau, le fleuve. C'est normal, vous avez déjà vu un torrent, un fleuve, quand il coule, il y a un bruit, il y a le bruit des grandes eaux. C'est fort, c'est rafraîchissant, c'est puissant. Évidemment, ça fait du bruit, mais moi, je préfère ensuite canaliser la vie et lui permettre de circuler et d'irriguer où elle doit aller, plutôt que de faire un barrage et de tout couper. Parce que je vous garantis, dans les églises, quand il y a de l'eau qui stagne, l'eau, quand elle ne circule plus, ça finit par s'infecter, ça finit par sentir mauvais. Et pardon, vous rentrez dans certaines églises, j'ai rien contre personne, ça sent la mort en 3 volumes. On a besoin de retrouver la vraie vie, l'authentique, la vie bénie, puissante du Saint-Esprit. Et même si, évidemment, je vais m'exprimer. Eh bien, amen, exprime-toi. Loue Dieu. Mais si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, même la louange, ça devient extrêmement pénible. Ça devient compliqué. Parce que ce n'est pas spontané. Donc, je suis là, je me dis, ah mince, qu'est-ce que je vais dire ? Ça m'est égal du moment que tu mets loue le Seigneur avec ton cœur. Et quand on a la fraîcheur, l'authenticité de l'esprit, des fois les mots ils sortent. Mais c'est pas grave, il y a la vie. C'est super. La vie. Amen. Regardez les enfants, vous avez des enfants, vous avez eu des enfants, des petits-enfants. Regardez vos enfants à la maison. Ben, les enfants, c'est normal, ils font un petit peu de bruit. Mais moi, je préfère avoir des enfants qui font un petit peu de bruit. Je préfère les gérer, les canaliser. Des fois, il faut vraiment les canaliser. Je préfère les enseigner, je préfère les éduquer, les enseigner. Plutôt que, excusez-moi, mais des fois, vous avez des... Et quand vous avez des enfants qui font pas de bruit, des fois, vous montez dans la chambre parce que les enfants, ils font pas de bruit. C'est vrai ou pas ? Vous dites, oh, je l'entends plus, c'est bizarre. Il est en train de me faire un truc, pas, il me fait une bêtise. Parce que quand un enfant, il y a du bruit, ben au final, vous trouvez ça totalement normal. Et vous trouvez normal de l'éduquer, de l'enseigner, etc. Alors les enfants, on ne va pas les massacrer. Les chrétiens qui veulent vivre la vie de l'esprit, on ne va pas les massacrer, on ne va pas couper. On va enseigner, on va éduquer, on va expliquer, on va accompagner. Et on va faire tout cela avec l'aide de la parole. Moi, c'est mon choix. Je préfère enseigner, je préfère éduquer. Je préfère canaliser, je préfère expliquer les choses, je préfère redresser quand c'est nécessaire, plutôt que quand il n'y a rien. Alors évidemment, oui, pardon, j'étais un petit peu sur les chrétiens, les pasteurs qui ont toujours peur que ça déborde, que ce soit le bazar ou l'anarchie. Non, ce n'est pas le bazar, ce n'est pas l'anarchie. Le Saint-Esprit est un être parfaitement équilibré, on le verra aussi ensuite. Mais... vu le manque d'enseignement et la méconnaissance, on va reprendre, comme je vous l'ai dit, on va prendre du début au commencement. On va faire connaissance avec l'Esprit de Dieu, on va l'introduire, on va le présenter. D'une part parce que j'aimerais qu'on puisse tous parler le même langage, et puis deuxièmement, pour que la foi, la confiance, plusieurs soient rassurés. Je sais qu'il y a des gens, ils ont peur du Saint-Esprit. Eh bien, il faut que la confiance vienne, il faut que la foi ait aussi la soif, l'envie de vivre autre chose, que la foi et l'envie, la soif puissent venir dans les cœurs. Alors, il y a quelque chose qu'on va faire, comme pour tous les sujets, mais surtout sur la question du Saint-Esprit, il y a quelque chose qu'on va faire au fur et à mesure des mois qui vont avancer, c'est qu'on ne va jamais, c'est l'erreur qu'on fait beaucoup de mouvements, beaucoup d'églises. On ne dissocie, écoutez-moi bien, on ne dissocie jamais l'esprit de la parole. Si on enlève à la parole, si on lui enlève l'esprit, vous vous retrouvez avec des églises mortes. Une doctrine impeccable, mais morte, sans vie. Et si vous prenez une église dans laquelle on a emmené un certain type du Saint-Esprit et qu'on a négligé la parole, c'est là que vous vous retrouvez un petit peu dans le bazar et dans les manifestations un petit peu étranges. Parce que du coup, c'est plus de l'esprit, c'est charnel, c'est la chair qui a pris le contrôle. Il faut absolument ne jamais dissocier la parole et l'esprit. Le mouvement de Pentecôte, frères et sœurs, c'est pas une nouveauté, il est biblique, il a bientôt 2000 ans, mais il faut comprendre que ce mouvement, que cette Pentecôte, cette vie de l'esprit, elle a un fondement scripturaire. Elle a une base biblique. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais, en tout cas c'est ce que je me propose de faire dans cette série de messages, ne jamais dissocier, c'est la pire erreur qu'on puisse faire, des tas d'églises l'ont faite, ne jamais dissocier la parole et l'esprit. Je vous donne ces images, je les ai notées. C'est comme les deux rails d'une voie ferrée, j'insiste sur ce point. Et là on va faire deux petites lectures, si vous voulez bien ouvrir avec moi la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3, et on va prendre en premier le verset 6. Pour illustrer ce point, jamais la parole sans l'esprit. On n'enlève pas l'esprit à la parole. 2 Corinthiens 3, 6, Paul déclare ici, « Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre sans l'esprit, la parole de Dieu, la doctrine sans la vie de l'esprit, elle est morte. Elle est inaccessible. Elle devient trop dure. Elle devient même décourageante parce que c'est impossible par nous-mêmes de la mettre en pratique et de la vivre. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre, la parole de Dieu, aussi parfaite et belle soit-elle, sans l'esprit, ça reste un code moral. Inaccessible. Et c'est impossible de la mettre en pratique. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit par la bouche d'Ézéchiel, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je déverserai mon esprit et je, c'est Dieu qui parle, l'esprit, et je, mon esprit, je ferai en sorte, j'écrirai mes lois au-dedans de vous. » Pour que la parole de Dieu soit praticable, ce n'est pas mes efforts charnels qui le font, c'est l'esprit en moi qui le fait. Et la lettre sans l'esprit, c'est un code moral impraticable. Et en plus, excusez-moi, ça peut être rébarbatif. Parce que si l'esprit n'éclaire pas sur la parole qu'il a inspirée, ça va devenir vite très 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 compliqué et très décourageant. Et puis, il y a une autre dérive. Je vous ai dit, c'est comme deux rails, on ne les sépare jamais. Juste un petit peu avant, on est toujours dans 2 Corinthiens 3. Regardez le verset 3 également. Paul, toujours ici, dit aux Corinthiens, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, et là on repense à la prophétie d'Ézéchiel, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Je déverserai mon esprit dans vos cœurs, et j'en ferai un cœur souple, un cœur malléable, et j'y inscrirai les principes de mon royaume, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur des cœurs, avec l'esprit du Dieu vivant. La parole et l'esprit sont indissociables. Si vous enlevez l'esprit à la lettre, il n'y a qu'un seul rail, vous êtes sûr que le train va dérailler. Si vous enlevez la lettre à l'esprit, vous êtes sûr que le train va dérailler. Toujours l'esprit et la parole sont deux rails, il ne faut jamais, au grand jamais, les dissocier sous peine d'aller dans le mur. Ça, c'est vraiment un enjeu important, j'espère que tout le monde y a été attentif. C'est aussi, j'ai une autre image que j'aime bien, c'est comme le coffrage et le béton. Alors ça parlera peut-être un petit peu plus aux frères qu'aux sœurs. Vous avez tous, mes frères, pour essayer de monter à l'étage, pour aller plus haut, vous avez déjà fait un escalier. Et vous vous êtes aperçu que pour faire un escalier, il faut déjà préparer un coffrage. Et ensuite, vous pouvez couler du béton dans le coffrage. Ben, excusez-moi pour cette image un peu cavalière, mais l'esprit, la parole et l'esprit, c'est un peu comme le coffrage et le béton, pour être très pragmatique. Le coffrage seul, il y a des églises, elles ont le coffrage seul. Ah, les planches, ah là, c'est nickel. Hein. Les planches, elles sont coupées au millimètre, elles sont poncées à la perfection, elles sont vernies, ah, on a une doctrine impeccable. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une doctrine impeccable. Il y a une saine doctrine, malheur, dit Jésus, malheur à celui qui va enlever un seul trait de lettre de cette loi. Donc il y a une doctrine impeccable, les planches sont bien poncées, c'est bien verni. Le coffrage, il est magnifique, mais le problème, c'est que c'est impraticable. Je ne peux pas monter plus haut parce que c'est creux. Tu as peut-être dans ta vie, pardon, tu as peut-être une super doctrine, mais c'est creux, c'est vide. Il manque la dimension de l'esprit. Et puis si je fais l'inverse, si je dis ouais, le coffrage, c'est avec le béton que je vais plus haut. Vas-y, fais couler du béton sans coffrage. Et bien du coup, c'est impraticable parce que vous ne pouvez pas monter non plus, vous n'allez nulle part, parce que le béton, il va finir par couler un peu partout. Et il faut absolument le coffrage et le béton. Il faut l'esprit et la lettre. Il faut les deux rails. Et il faut absolument que ça reste toujours ensemble et indissociable. On n'ira nulle part sans le Saint-Esprit. La parole de Dieu, elle est belle, elle est pure, elle est extraordinaire. Il ne faut jamais y toucher, il ne faut jamais l'enlever un iota, il ne faut jamais la faire dévier d'un seul millimètre. Elle est impeccable. C'est un rail, c'est un rail. Il ne faut pas y toucher, c'est un rail. Mais ça ne suffit pas. Parce que pour que le train avance, il faut deux rails. Et malheureusement, je sais qu'à beaucoup de chrétiens, ils ont une super doctrine, mais il leur manque aussi tout cet aspect de la vie de l'esprit. C'est ce que, avec la grâce que Dieu me donnera, je me propose de faire ici pour vous. Juste le point que je vais quand même commencer à aborder avec vous, je vous ai dit, il faut vraiment faire connaissance avec le Saint-Esprit, il faut le présenter ou le représenter, l'introduire tout à nouveau. La première chose qu'on va voir avec quelques textes bibliques, c'est que, bien évidemment, le Saint-Esprit n'est pas une force, ce n'est pas une influence, ce n'est pas une énergie, ce n'est pas un fluide. J'ouvre une parenthèse, méfiez-vous de tout ce que vous pouvez lire ou entendre sur Internet, parce que malheureusement, il y a eu des farfelus, et il y en a encore de plus en plus. Internet, c'est le repère central de tous les farfelus. Je ferme la parenthèse. Soyez vigilants, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est vrai que dans l'Écriture, il est souvent comparé à l'huile, au feu, au vent, à l'eau, à la colombe. Il y a des symboles pour le représenter. Mais ce n'est pas parce que parfois il est symbolisé que ça fait de lui une force ou un fluide. Non, le Saint-Esprit est réellement une personne et une personne divine. Les textes, les enseignements bibliques à ce sujet sont nombreux. L'Esprit est Dieu. Il est la troisième personne de la Trinité. Dieu, le Saint-Esprit. Et on ne peut pas disséquer Dieu. Alors je sais que déjà rien que la Trinité, c'est pas évident à comprendre. Vous ne pouvez pas prendre Jésus, mais pas prendre le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas aimer Jésus et ne pas aimer le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas chercher Jésus et ne pas chercher son Esprit. Vous ne pouvez pas le disséquer. La Bible dit, Paul dit, il y a un seul Dieu. Alors, j'insiste, nous n'avons pas trois dieux. Nous sommes une religion monothéiste. Il y a un seul Dieu. Et pour vous aider à l'imager, imaginez un grand cercle. Un grand ensemble. Et Paul, dans cette vision, dit « Il y a un seul Dieu en trois personnes. » Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu, vous imaginez un grand cercle, et à l'intérieur de ce cercle, vous mettez Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et peu importe dans quel axe vous allez regarder ou aborder le cercle, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont le même Dieu trinitaire. Ça va ? C'est le même Dieu trinitaire. Un seul Dieu avec à l'intérieur trois personnes qui vont avoir un rôle différent au fur et à mesure de la révélation, de l'avancée de la révélation biblique. Mais il faut comprendre, parce qu'il est dans ce grand ensemble qui est le Dieu unique et trinitaire, que le Saint-Esprit est tout autant Dieu que le Père. Le Saint-Esprit est tout autant Dieu que Jésus. Et si je ne veux pas du Saint-Esprit, ne me dites pas que vous voulez de Jésus. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas dissocier. À la limite, si un jour vous aimez beaucoup mon épouse, mais que moi vous ne pouvez pas m'encadrer, je peux encore le comprendre. Vous pouvez inviter mon épouse à la maison et dire « Anne, je t'invite à manger. » Par contre, ton mari ne vient pas. Moi, j'aime Anne, mais je n'aime pas Stéphane. Bon, vous pouvez, ok, je resterai à l'écart. Mais ma femme, parce qu'elle est tellement attachée à moi, elle va vous dire « Non, non. » Pas sans mon mari. Et il y a des chrétiens, ils veulent dissocier Jésus et ils ne veulent pas du Saint-Esprit parce qu'ils en ont peur. Et en réalité, on essaie de scinder ce grand cercle, ce grand ensemble qu'est le Dieu trinitaire et on voudrait prendre juste ce qui nous arrange. Mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est la troisième personne de la Trinité. Il est Dieu. Le Saint-Esprit et j'insiste, il est tout autant Dieu que le Père, et il est tout autant Dieu que Jésus le Fils, qui est assis à la droite du Père, glorifié, etc., etc. Mais il est tout autant Dieu que le Fils. Quelques exemples scripturaires. Dieu est esprit. Ça, il faut vraiment le comprendre. Lorsque Jésus est en train de parler à la Samaritaine, Jean chapitre 4, dans le verset 24, vous lirez ceci à un moment, c'est très connu quand Jésus dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit conformément à la vérité. » Dieu est esprit, dans la pensée originale, dans le grec, l'emphase, l'accent est mis sur esprit. Ce qui signifie qu'il y a des traductions différentes et en réalité, on pourrait dire tout autant parce que l'emphase est mise, l'accent est mis sur esprit, Jésus est en train de dire l'esprit est Dieu. L'esprit est Dieu. Dieu est esprit, l'esprit est Dieu. Deuxième, là je ne vous fais pas chercher, hein, j'ai noté les références. Bien sûr, vous retrouverez tout ça sur Internet. Paul dit aussi aux Corinthiens, on était dans 2 Corinthiens 3, si vous allez un peu plus loin, au verset 17, vous allez voir cette parole de l'apôtre Paul, le Seigneur, et il dit bien kurios, ce qui signifie bien Seigneur, dans le grec, le Seigneur, c'est l'Esprit. Dans la pensée de Jésus, dans la pensée de Paul, il n'y a pas de différence entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Oui, ils ont une fonction différente, ils ont joué un rôle différent dans le salut, dans les œuvres, etc. Mais c'est de toute façon le même Dieu trinitaire, indissociable et indivisible. Quand Jésus, toujours dans l'évangile de Jean, cette fois c'est en Jean 14, il y a beaucoup de textes dans l'évangile de Jean au sujet du Saint-Esprit, on y viendra plus tard, on les méditera évidemment. Quand Jésus dit à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas orphelin, il est avantageux que je m'en aille, parce que je vous enverrai le Consolateur, je ne vous laisserai pas orphelin. » Et il dit, « Je vous enverrai un autre Consolateur. » Consolateur parakletos désigne bien une personne. Et il dit « un autre ». Il n'a pas dit « je vous enverrai le Consolateur ». Il a dit « je vous enverrai un autre Consolateur ». Allos, ce qui signifie littéralement, là dans le grec, allos signifie littéralement « un autre comme moi ». Littéralement, celui qui m'est identique en tout point. Le Saint-Esprit, par sa nature, par ses attributs, par ce qu'il est de la même nature que Jésus, c'est le même Dieu trinitaire, et Dieu, Jésus dit, je vous enverrai un autre, c'est-à-dire quelqu'un qui est, oui, c'est une personne différente, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils, mais qui est identique en tout point, égal et identique en tout point. Si on va un petit peu plus loin, on va regarder dans les Actes des Apôtres, c'est là que le Saint-Esprit est répandu pour la première fois en acte 2, mais rapidement dans l'enseignement, on s'aperçoit que Pierre, ici, dans acte 5, c'est le récit, souvenez-vous, où Ananias et Saphira ont menti. Ils ont voulu faire les beaux, ils ont prétendu avoir vendu le champ à un certain prix. Pierre leur pose la question, ils disent « oui, oui, on a vendu le champ à ce prix, on l'amène au pied des apôtres, comme tout le monde ». Et à un moment, Pierre va leur dire « pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit ? Pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit ?» Et il termine en disant « ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu ». Pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit ? Tu as menti à Dieu. Et là, pareil, l'apôtre Pierre, comme Jésus, comme l'apôtre Paul, ne va pas faire une distinction entre l'Esprit, le Fils, le Père. Non, tu as menti au Saint-Esprit, tu as menti à Dieu. Tu as péché contre Dieu, que ce soit contre le Père, le Fils ou le Saint-Esprit, tu as péché contre Dieu. C'est la troisième personne de la Trinité, Dieu le Saint-Esprit. Lorsque Jésus donne à ses disciples la grande mission, il leur dit, désolé, c'est un peu plus doctrinal ce matin, mais il faut qu'on pose les fondements. Hein, okay, Jésus dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand on fait des baptêmes, on en aura le 16 septembre, les gens qui seront là, je les baptiserai sur leur confession de foi, je les baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que l'œuvre et la bénédiction de la personne du Saint-Esprit sont tout aussi nécessaires que l'œuvre du Père, l'œuvre de Jésus, la bénédiction du Père, la bénédiction de Jésus. Trois personnes distinctes, mais indissociables, indivisibles qui sont et seront toujours égales, identiques, donc indissociables et indivisibles. C'est le Dieu trinitaire et on ne peut pas prendre l'un sans l'autre. Je ne peux pas aimer le Père, aimer Jésus et ne pas aimer le Saint-Esprit. Je ne peux pas prendre l'un sans l'autre. C'est indispensable. Alors, on va en rester là pour aujourd'hui. C'est bien, on ne va pas aller trop loin. On continuera. On en a pour plusieurs mois, peut-être pour l'année, je ne sais pas, mais ça va aller très loin. Mais je crois que c'est important, déjà dans un premier temps, de bien reconsidérer la personne merveilleuse et glorieuse du Saint-Esprit, dans ce qu'il est, dans ses attributs, dans ses œuvres, afin que non seulement on parle tous le même langage, mais que la foi puisse venir dans vos cœurs et que par la grâce de Dieu, je dirais même, la soif puisse venir dans vos cœurs et dire quelqu'un d'aussi exceptionnel que ça, je vous le présenterai encore dans d'autres aspects la semaine prochaine, quelqu'un d'aussi exceptionnel que ça, je veux une vie baignée, plongée, immergée dans la personne et dans la puissance du Saint-Esprit parce que c'est ça, qui que l'on soit, où que l'on soit, quoi que l'on fasse, quoi qu'il se passera dehors, c'est ça qui va faire toute la différence pour la fin des temps. Amen.